Bonjour frères et sœurs, je vous souhaite à tous un excellent sabbat. L'été avant de partir à l'université, j'ai travaillé pour un membre de l'église dans le sud de l'état de Missouri. Avec d'autres, nous avons mis le foin pour les vaches pour l'hiver et nous avons travaillé aussi avec des brebis. Ce membre qui avait une ranch, il avait plusieurs brebis et j'ai aidé à soigner les brebis pendant cet été et j'ai appris des leçons qui était pour moi très intéressante et par la suite utile. La Bible parle de chrétiens en tant que brebis. Nous sommes comparés à des brebis. Et il y a des leçons importantes à tirer de cette analogie. Dans Matthieu chapitre 10, verset 16, par exemple, Matthieu chapitre 10, verset 16, nous avons un passage qui parle de cette analogie. C'est Jésus qui parle ici dans Matthieu chapitre 10, verset 16, et il dit, « Voici, je vous envoie comme des brebis au milieu des loups. Soyez donc prudents comme les serpents et simples comme les colombes. » La Bible dit que c'est notre situation. Nous sommes des brebis au milieu de loups. C'est une situation dangereuse, n'est-ce pas? Des brebis dans un monde de loups. Ça ne veut pas dire que tout le monde sauf nous est méchant, mais ça veut dire que le monde et ses systèmes sont, par analogie, carnivores, sont très violents et peuvent être dangereux pour nous. Il n'est pas facile de vivre en chrétien dans un monde rempli de loups spirituels. Dieu nous considère comme des brebis. Et comme j'ai dit, c'est une situation, à première vue, très difficile et dangereuse. Les brebis, elles sont tendres, vêtues de laine, de petites cornes aux pieds, pour marcher, des dents pour brouter de l'herbe, et une nature paisible. Les loups, en revanche, ont des dents pour déchirer la chair. Ils sont durs, ils sont musclés, ils ont des poils, des griffes, et des dents faites exprès pour déchirer la chair, comme j'ai dit. Dans une lutte entre une brebis et un loup, qui va gagner? Est-ce qu'il y a des gens qui veulent parier sur la brebis? Je ne pense pas. Ce monde n'est pas doux pour les brebis. C'est dangereux pour les brebis. Dans Matthieu chapitre 10, si nous continuons, verset 17, « Mettez-vous en garde contre les hommes, car ils vous livreront aux tribunaux et vous battront de verge dans leurs synagogues. » Vous serez menés à cause de moi devant les gouverneurs et devant les rois pour servir de témoignage à eux et aux païens. Mais quand on vous livrera, ne vous inquiétez ni de la manière dont vous parlerez, ni de ce que vous direz, ce que vous aurez à dire vous sera donné à l'heure même. Car ce n'est pas vous qui parlerez, pardon, c'est l'Esprit de votre Père qui parlera en vous. Le frère livrera son frère à la mort et le père son enfant. Les enfants se soulèveront contre leurs parents et les feront mourir. Vous serez haïs de tous à cause de mon nom, mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Nous devons persévérer dans cette situation qui n'est pas très prometteuse, n'est-ce pas? Cela s'est déjà produit pour nos prédécesseurs dans la foi. Ils ont été livrés aux tribunaux, ils ont été battus, fouettés, et parfois même ils ont été exécutés, assassinés à cause des croyances que nous partageons avec eux. Et même si on ne va pas jusqu'à cette extrémité-là, les choses difficiles peuvent nous arriver à n'importe quel moment à cause de nos convictions, à cause de la façon dont nous voulons vivre. Ça peut arriver aux gens qui cherchent à vivre par la douceur et par l'amour pour leur prochain. Les véritables chrétiens sont le troupeau de Dieu. Psaume 74, verset 1. Psaume 74, verset 1. Cantique d'Asaph, « Pourquoi, ô Dieu, rejettes-tu pour toujours? Pourquoi t'iris-tu contre le troupeau de ton pâturage? Souviens-toi de ton peuple que tu as acquis autrefois, que tu as racheté comme la tribu de ton héritage. Souviens-toi de la montagne de Sion où tu faisais ta résidence, le troupeau de ton pâturage. Même à l'époque d'Israël ancien, Dieu considérait son peuple comme un troupeau de brebis et qui avait besoin d'être protégé et soigné. Et Dieu était le grand berger et il est toujours le grand berger de son troupeau. Et ce langage est répété non seulement dans l'Ancien Testament, mais aussi dans le Nouveau. Regardons Luc chapitre 12. Luc chapitre 12. Luc chapitre 12, verset 32. Jésus a dit à ses disciples, dans Luc chapitre 12, verset 32, « Ne crains point, petit troupeau, car votre Père a trouvé bon de vous donner le royaume. » Petit troupeau. Nous sommes le petit troupeau de Dieu. Dieu nous compare à des brebis. Dans Matthieu chapitre 25, il sépare les brebis d'avec les boucs. Et les brebis, c'est ce que nous voulons être, vont à sa droite. Les brebis à droite, les boucs à gauche, et quelles que soient nos opinions politiques, là, dans cette situation, nous voulons définitivement être plutôt du côté droit. Nous voulons être parmi les brebis que Dieu aime et que Dieu protège. De retour dans les psaumes, psaume 100 maintenant, psaume 100, à partir du verset 1, psaume 100, à partir du verset 1, le premier verset, psaume de louange, « Poussez vers l'Éternel les cris de joie, vous tous habitants de la terre, servez l'Éternel avec joie, venez avec allégresse en sa présence. Sachez que l'Éternel est Dieu, c'est lui qui nous a fait et nous lui appartenons. Nous sommes son peuple et le troupeau de son pâturage. » Nous sommes le troupeau de son pâturage. Un jour, ce sera le cas pour tout le monde, mais pour le moment, c'est limité à l'Église. L'Église de Dieu est le troupeau de son pâturage. Nous sommes un petit troupeau au milieu de loups. Est-ce que c'est une situation désespérée? Eh bien, si ce n'était que si nous devions nous fier à nos propres forces, oui, ça serait effectivement une situation désespérée. Mais la Bible nous explique comment survivre, comment prospérer, comment croître en étant des brebis au milieu d'un monde de loups. Nous pouvons devenir des brebis fortes, en bonne santé, fermes, vigoureuses. Et c'est de cela que j'aimerais vous parler aujourd'hui. Si vous voulez donner un titre à ce sermon, vous pourrez donner le titre « Guide de survie pour des brebis dans un monde de loups ». Guide de survie pour des brebis dans un monde de loups. Et dans ce guide de survie, il y aura quatre chapitres. Quatre chapitres sur le sujet de comment survivre et prospérer dans cette situation. Chapitre 1. Première chose à garder à l'esprit. Pour survivre comme brebis dans un monde de loups, nous devons rester tout près du berger. Rester tout près du berger. Je vous ai dit que quand j'étais au lycée, juste avant d'aller à l'université, j'ai aidé un membre avec un troupeau de moutons. J'ai aidé à les soigner. Et j'ai vite appris que les brebis ont besoin du berger pour être heureuses, pour être en bonne santé. Les brebis laissées à elles-mêmes ne peuvent pas prospérer, bien au contraire. Dans le psaume 23, psaume 23, au verset 1, nous allons passer un peu de temps dans le psaume 23, puisqu'il est question dans ce psaume de Dieu qui est notre berger. Et nous allons apprendre certaines leçons à partir de ce psaume. Cantique de David, psaume 23, verset 1. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Ce premier verset pourrait être traduit « puisque » ou « parce que l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien ». C'est parce qu'il est mon berger que nos besoins peuvent être comblés. Parce que l'Éternel est mon berger, puisque l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Nous devons rester tout près de ce berger. Nous dépendons de tout à lui. Nous dépendons de lui pour tout ce qu'il nous faut. Alors, vous voulez peut-être mettre le ruban de votre Bible, si vous avez un ruban dans le psaume 23, Et nous allons maintenant prendre Matthieu chapitre 9. Matthieu chapitre 9. Nous allons revenir dans le psaume 23. Matthieu chapitre 9, verset 36. Matthieu chapitre 9, verset 36. Voyant la foule, il fut ému de compassion pour elle, parce qu'elle était languissante et abattue, comme des brebis qui n'ont point de berger. Les brebis qui n'ont point de berger sont languissantes et abattues. Les brebis ont besoin du berger pour prospérer. Sans berger, on est languissante et abattue. On a besoin du berger, les brebis ont besoin de leur berger pour plusieurs raisons. Le berger les guide vers une bonne nourriture, de bon pâturage. Le berger ne les pousse pas aussi vite qu'ils s'épuisent. Il va à une bonne vitesse pour permettre aux brebis de croître. Il les guide vers une eau pure, pas polluée. Le berger prend soin, il soigne ses brebis contre les maladies ou il soigne des blessures. On va parler des insectes tout à l'heure, des insectes qui peuvent pousser des brebis à la folie. Et il y a une protection contre les prédateurs, contre les loups, contre les chiens, les ours, les lions, les voleurs. Toutes ces choses sont mentionnées dans la Bible comme étant des menaces pour des brebis. Et Dieu nous dit que nous avons un berger, B majuscule, le grand berger. Hébreux chapitre 13, verset 20, appelle Jésus-Christ le grand berger. C'est Hébreux 13, verset 20. Il est notre berger. Nous sommes les brebis de son pâturage, comme nous l'avons déjà lu. Dans 1 Pierre chapitre 2, verset 25, nous lisons autre chose à propos des brebis. 1 Pierre chapitre 2, verset 25. Car vous étiez comme des brebis errantes, mais maintenant vous êtes retournés vers le berger et le gardien de vos âmes. Nous sommes revenus vers le berger et le gardien de vos âmes. Jésus-Christ, le grand berger, il veille sur nos vies. Il veille sur nous en tant qu'âme, en tant qu'être. Le berger dirige ses brebis. Il guide son troupeau. La question pour nous, c'est, est-ce que nous nous laissons facilement diriger? Est-ce que nous acceptons d'être guidés? Ou est-ce que nous luttons contre le fait que Dieu nous guide, que le berger nous guide? Il y a parfois des brebis qui refusent, qui rouspètent, qui ne veulent pas que Dieu les guide, ou qui ne veulent pas que les assistants bergers les guident. Ils veulent faire des choses à leur façon. Les brebis ne peuvent pas prospérer sans berger, et nous non plus. Comme j'ai dit, le berger dirige ses brebis, son troupeau, et nous devons nous laisser guider par le grand berger. Dans le psaume 78, verset 52, psaume 78, verset 52. Il est question de Dieu qui a libéré Israël de l'Égypte. Il fit partir son peuple comme des brebis. Il les conduisit comme un troupeau dans le désert. Il les dirigea sûrement pour qu'ils soient sans crainte et la mer couvrit leurs ennemis. Dieu a guidé Israël, il les a fait sortir de l'Égypte et il les a protégés et guidés comme un berger. Il dirige son troupeau. Et si nous ne voulons pas nous laisser diriger par Dieu, on se laissera peut-être digérer par des carnivores. Nous avons besoin de sa protection. Comment pouvons-nous rester tout près du berger? Ça veut dire quoi? Ça ressemble à quoi dans la vie de tous les jours? Eh bien, regardons 1 Jean chapitre 2, verset 6. 1 Jean chapitre 2, verset 6. 1 Jean 2, verset 6. Celui qui dit qu'il demeure en lui, vous nous restez tout près du berger, doit marcher aussi comme il a marché lui-même. Nous devons marcher comme le berger a marché. Si nous voulons rester tout près de lui, si nous voulons être en lui, on ne peut pas être plus près que ça, nous devons vivre comme il a vécu, suivre son exemple. Et suivre son exemple, ça veut dire prier comme Jésus l'a fait, bien connaître la parole de Dieu comme Jésus l'a fait, et ça doit être un sujet de nos pensées. Jésus avait constamment à l'esprit d'accomplir la volonté de son Père. Et nous aussi, nous devons faire de même. Dans Jean, l'évangile de Jean cette fois-ci, Jean chapitre 10, verset 16. Jésus dit, « J'ai encore d'autres brebis qui ne sont pas de cette bergerie. Celles-là, il faut aussi que je les amène. Elles entendront ma voix et il y aura un seul troupeau, un seul berger. » Un seul troupeau, un seul berger. Alors nous devons rester avec le troupeau. Les brebis solitaires sont une proie facile. Il ne faut pas sauter la clôture. Dans la nouvelle « La chèvre de M. Seguin » d'Alphonse Daudet, dans les lettres de Montmoulin, il y a une brebis qui s'appelle Blanquette qui veut goûter la liberté de la montagne. En fait, c'est une chèvre, pas une brebis, mais l'analogie est la même. Un jour, Blanquette, elle se dit en regardant la montagne, « Comme on doit être bien là-haut. Quel est le plaisir de gambader dans la bruyère. Sans cette maudite longe qui vous écorche le cou. C'est bon pour l'âne ou pour le bœuf de brouter dans un clos. Les chèvres, il nous faut du large. Il leur faut du large. » À partir de ce moment, l'herbe du clos lui parut fade. L'ennui lui vint. Elle maigrit, son lait se fit rare. C'était pitié de la voir tirer tout le jour sur sa longe, la tête tournée du côté de la montagne. La narine ouverte, en faisant mais tristement. Monsieur Seguin s'apercevait bien que sa chèvre avait quelque chose, mais il ne savait pas ce que c'était. Un matin, comme il achevait de la traire, la chèvre se retourna et lui dit dans son patois, « Écoutez, Monsieur Seguin, je me languis chez vous, laissez-moi aller dans la montagne. » « Ah, mon Dieu !» c'est lui qui le dit. Elle aussi cria Monsieur Seguin, stupéfait, et du coup, il laissa tomber son écuelle. Puis, s'asseyant dans l'herbe, à côté de sa chèvre, « Mais comment, Blanquette, tu veux me quitter ?» Et Blanquette répondit, « Oui, Monsieur Seguin. Est-ce que l'herbe te manque ici ?»« Oh non, Monsieur Seguin. Tu es peut-être attaché trop court, veux-tu que j'allonge la corde ?»« Ce n'est pas la peine, Monsieur Seguin. Alors qu'est-ce qu'il te faut? Qu'est-ce que tu veux ?»« Je veux aller à la montagne, Monsieur Seguin. Mais malheureuse, tu ne sais pas qu'il y a le loup dans la montagne. Que ferais-tu quand il viendra ?» Je lui donnerai des coups de corne, Monsieur Seguin. Et vous connaissez, nous connaissons la suite. Finalement, elle part dans la montagne et elle se fait dévorer par le loup parce qu'elle ne voulait pas rester tout près du berger. Et c'est ce qui nous arriverait spirituellement si nous nous écartons du troupeau et du berger. Nous avons besoin de cette protection. Plus on est près du berger, plus on est en sécurité. Le berger ne nous quittera jamais. La question est de savoir, est-ce que nous allons quitter le berger? Est-ce que nous allons nous éloigner de son seul troupeau? Est-ce que nous allons nous éloigner? Nous ne devons pas le faire. Chapitre 1, dans le guide de survie pour des brebis dans un monde de loups, restons tout près du berger. Restons dans le troupeau. Deuxième chapitre dans ce guide de survie. Nous devons permettre aux bergers de prendre soin de nous. Nous devons permettre aux bergers de prendre soin de nous. Revenons dans le psaume 23. Psaume 23, verset 2. Il me fait reposer dans de verts pâturages. Il me dirige près des eaux paisibles. Les brebis ne savent pas toujours trouver ce qu'il leur faut comme nourriture. Elles peuvent facilement s'égarer. Jésus-Christ nous guide dans la vie vers ce qu'il nous faut comme nourriture spirituelle et eau pure spirituelle. Christ nous guide à travers nos études de la Bible, à travers nos prières, à travers les conseils et les admonitions qui nous sont données par l'Église. Et nous devons nous laisser guider, pas résister. Jean chapitre 21, verset 15, à partir du verset 15, Jean 21, verset 15. Après qu'ils eurent mangé, Jésus dit à Simon-Pierre, « Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu plus que ne m'aiment ceux-ci ? » Il lui répondit, « Oui, Seigneur, tu sais que je t'aime. » Jésus lui dit, « Paie mes agneaux. » Il lui dit une seconde fois, « Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu ? » Pierre lui répondit, « Oui, Seigneur, tu sais que je t'aime. » Jésus lui dit, « Paie mes brebis. » Il lui dit pour la troisième fois, « Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu ? » Pierre fut attristé de ce qu'il lui avait dit pour la troisième fois, « M'aimes-tu ? » Il lui répondit, « Seigneur, tu sais toutes choses. Tu sais que je t'aime. » Jésus lui dit, « Paie mes brebis. » en vérité, je te le dis, quand tu étais plus jeune, tu te saignais toi-même et tu allais où tu voulais. Mais quand tu seras vieux, tu étendras tes mains et un autre te ceindra et te mènera où tu ne voudras pas aller. » Il dit cela pour indiquer par quelle mort Pierre glorifierait Dieu. Ayant ainsi parlé, il lui dit, « Suis-moi. » Paie mes agneaux, paie mes brebis. Quel que soit leur âge spirituel, Pierre avait la charge de prendre soin du troupeau de Dieu. C'était un travail, c'était la charge de Pierre et les autres qui devaient suivre l'exemple de Pierre et être des assistants bergers dans l'Église de Dieu, comme nous en avons encore aujourd'hui. Et la brebis doit permettre à ce qu'on la soigne. Parfois, les brebis refusent de se laisser soigner. À un moment donné, quand j'ai travaillé pour ce membre de l'Église avec ses brebis, il y avait une brebis qui avait une infection à la corne du pied. Et nous devions le soigner. Alors, il fallait attraper la brebis, la remettre sur le dos. On va en reparler quand des brebis se trouvent sur le dos. Il y a un gaz qui s'accumule dans la panse. Et puis, ils sont encore conscients, mais ils sont incapables de bouger. Et là, on pouvait soigner. C'était difficile d'attraper cette brebis. Elle ne voulait pas se laisser soigner. Elle m'a tiré un peu comme si je faisais du ski nautique, à travers tout l'enclos avant de pouvoir finalement la mettre sur la dos, pour son bien. Je ne voulais pas lui faire du mal, je voulais la soigner. Et j'ai réussi à le faire, mais elle a rendu le processus très, très difficile. Et parfois, en tant que brebis spirituelle, nous pouvons faire la même chose avec Dieu. Il veut nous soigner, il veut prendre soin de nous. Ou alors ses adjoints, ses assistants bergers veulent prendre soin de nous. Et nous résistons, nous ne voulons pas. Non, je ne veux pas. Je ne veux pas me laisser soigner. Nous ne devons pas faire cela avec le grand berger. Et ce n'est pas utile de le faire avec les assistants bergers non plus. Inutile. Jean chapitre 10, verset 3. Jean chapitre 10, verset 3. Commençons au verset 1. En vérité, je vous le dis, celui qui n'entre pas par la porte dans la bergerie, mais qui monte par ailleurs, est un voleur et un brigand. Mais celui qui entre par la porte est le berger des brebis. Le portier lui ouvre, et les brebis entendent sa voix. Il appelle par leur nom les brebis qui lui appartiennent, et il les conduit dehors. Lorsqu'il fait sortir toutes ses propres brebis, il marche devant elles et les brebis le suivent parce qu'elles connaissent sa voix. Nous devons entendre la voix du grand berger. Et les brebis font ça. Les brebis physiques, quand ils entendent la voix de leur berger, elles viennent, elles ont confiance. Et nous devons faire de même. Nous devons écouter sa voix. Nous devons entendre ce qu'il a à nous dire. Et nous devons mettre en pratique ce que le grand berger veut pour nous. Nous devons permettre au berger de prendre soin de nous et ne pas lui résister par crainte ou pas parce que ça nous gêne ou pour d'autres raisons qu'on peut avoir. Nous devons permettre au grand berger de nous soigner. Ça, c'est le deuxième chapitre dans notre guide de survie pour des brebis dans un monde de loups. Chapitre 3, maintenant. Attention aux prédateurs et aux parasites. Attention aux prédateurs et aux parasites. Psaume 23, de nouveau. Psaume 23, versets 4 et 5, cette fois-ci. Psaume 23, versets 4 et 5. « Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires. Tu oins d'huile ma tête et ma coupe déborde. Ici, il est question de deux choses, le bâton et la houlette. C'est une façon, ce sont des armes, on va dire, pour protéger les brebis contre les prédateurs qui pourraient s'amener. Et le fait d'être oint d'huile, tu oins d'huile ma tête, ça c'est une protection contre les parasites, contre les insectes, des prédateurs et des parasites. Il y a des parasites qui peuvent entrer dans le nez des brebis et ça peut les réduire à la folie, finalement. Ça démange tellement. Mais cette huile, ça enlève ou ça empêche aux parasites d'entrer dans le nez de la brebis. Matthieu chapitre 7, Matthieu chapitre 7, verset 15. Matthieu chapitre 7, verset 15. « Gardez-vous des faux prophètes. Ils viennent à vous en vêtements de brebis, mais au-dedans, ce sont des loups ravisseurs. Vous les reconnaîtrez à leurs fruits. Cueille-t-on des raisins sur des épines ou des figues sur les chardons? Tout bon arbre porte de bons fruits, mais le mauvais arbre porte de mauvais fruits. » Il y a des prédateurs, il y a des faux prophètes, il y a beaucoup de fausses idées dans le monde. Il y a même dans la grande collection des églises, des associations de l'Église de Dieu, il y a aussi de faux enseignements qui sont très séducteurs, peuvent être très séducteurs, déguisés en vrais enseignements. Dans le monde, il y a de fausses idées qui sont déguisées en science. On veut nous faire croire aujourd'hui, sans aucune évidence scientifique, qu'un homme peut devenir une femme simplement en y pensant. Et qu'une femme peut devenir un homme simplement en y pensant. Il n'y a pas de science derrière ça, il n'y a pas de preuve, mais maintenant, ça se passe comme une vérité pour beaucoup de gens. C'est bizarre. C'est bizarre. Comment on peut arriver à croire à des choses comme ça, mais c'est là où on en est. Quels sont les fruits? On les reconnaîtrait à leurs fruits. C'est important pour nous, dans l'Église, et pour nos jeunes en particulier, de regarder des choses qui semblent attrayantes dans le monde, on doit se poser la question, quels sont les fruits ultimes? Qu'est-ce qui se passe en fin de compte quand on suit ce genre de mode de vie? Il y a des choses qui semblent attrayantes, mais quels sont les résultats finalement, en fin de compte? Et parfois, il faut attendre des décennies avant de voir quels sont les fruits portés. Quels sont les modes de vie ou le mode de vie qui mène à un mariage heureux? À une vie heureuse, sans effet secondaire. On doit regarder, on doit observer. On les reconnaîtra à leurs fruits. 1 Pierre chapitre 5. 1 Pierre chapitre 5. Verset 8. 1 Pierre chapitre 5, verset 8. Soyez sobres, veillez. Votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il dévorera. Résistez-lui avec une foi ferme, sachant que les mêmes souffrances sont imposées à vos frères de par le monde. Satan est un lion rugissant qui cherche à dévorer. Comment est-ce que Satan dévore les gens? Pas physiquement. Hein? Qu'est-ce que ça veut dire quand Satan dévore quelqu'un? Il dévore quelqu'un par de fausses idées, en le faisant fléchir devant les tentations, par des faux frères. Ce sont des prédateurs spirituels qui peuvent nous dévorer, guidés par Satan. Et nous devons faire attention à ces faux prophètes, à ces faux enseignements. Même parfois à l'intérieur, quelqu'un va nous chuchoter dans l'oreille, ah, « Tu n'as pas bien compris le calendrier, tu n'as pas bien compris ceci ou cela. » Et c'est là où nous avons besoin du grand berger et de ses assistants. Et puis, il est question de parasites également. J'ai souligné ça quand nous avons lu le psaume 23, « Tu oins d'huile ma tête ». Ça, c'était une remède contre les mouches. Il y a des mouches qui peuvent pondre des œufs dans le nez et la démangeaison est tellement que ça pousse les brebis à la folie. Et pour nous, ces parasites, ça serait les tracasseries de la vie, les complications que nous avons, les soucis, les injustices, les mauvais comportements dont nous sommes victimes ou dont nous sommes l'objet. Nous devons faire très attention à ne pas nous laisser distraire par toutes ces choses, par ces tracasseries de la vie, ces parasites. Philippiens chapitre 4. Philippiens chapitre 4, verset 6. Philippiens chapitre 4, verset 6. Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications, avec des actions de grâce, et la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Ne vous inquiétez de rien. Nous ne devons pas nous laisser distraire par les tracasseries de la tête. Nous devons maintenir nos priorités bien en place et faire confiance à Dieu et ne pas nous tracasser. Gardez nos yeux fixés sur lui. Et là, il oindra d'huile nos têtes par le Saint-Esprit. Et cela va nous calmer, cela va nous protéger, cela va nous soigner de tous les maux spirituels qui peuvent nous atteindre. Nous avons besoin de remercier, se concentrer sur Dieu, lui remercier pour toutes les bonnes choses qu'il nous donne. Et quand nous avons nos priorités en place, comme cela, nous n'allons pas nous laisser aller à la folie à cause des tracasseries de la vie. Il y a des tracasseries dans la vie. Mais nous devons garder notre attention sur le grand berger qui va oindre d'huile nos têtes. Ça, c'est le chapitre 3 dans ce guide de survie pour des brebis. Nous devons faire attention aux prédateurs et aux parasites. Chapitre 4, le dernier chapitre maintenant. En cas de problème, en cas de danger, appelez vite le berger. Faire appel rapidement au berger. C'est simple, n'est-ce pas? Mais parfois, nous le négligeons. Nous essayons de nous battre nous-mêmes avec nos difficultés, les problèmes qui se soulèvent, alors que nous devrions d'abord appeler au berger, demander son aide, et ensuite avoir la force nécessaire pour affronter ce qui peut nous affronter. Psaume 23. Psaume 23. Verset 3, maintenant, nous l'avons sauté avant. Revenons au verset 3. Il restaure mon âme. Il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. Il restaure mon âme. Il restaure mon âme. Là, il est question de ce qu'on appelle une brebis renversée ou abattue. Quand une brebis tombe sur le dos et reste là pendant quelques secondes, il y a, comme j'ai déjà dit, un gaz qui s'accumule dans la panse. Ça retarde la circulation sanguine et la brebis devient toute molle et incapable de se sortir de cette situation. est évidemment une proie facile pour des prédateurs, etc. Comment est-ce que ça se passe? Bien, la brebis trouve un endroit confortable, il y a peut-être une creux dans la terre, elle est devenue peut-être trop lourde, un peu de graisse sur le dos, trop confortable, elle roule dans le trou et tout d'un coup elle devient incapable de s'en sortir. Et c'est là où Dieu doit restaurer notre âme, il doit nous ramener à la vie quand nous nous trouvons dans ce genre de situation. Quand nous nous rendons compte que nous sommes trop éloignés de Dieu, que nous sommes mal nourris, que nous avons un lion qui rôde autour et un danger qui nous cible, les mouches qui nous gênent, les mouches spirituelles qui nous gênent. Quand nous nous rendons compte d'un danger comme cela, nous devons appeler à l'aide du berger. Nous devons appeler à l'aide. Psaume 119, verset 176. Psaume 119, verset 176. Je suis errant comme une brebis perdue. Cherche ton serviteur, car je n'oublie point tes commandements. Je suis errant comme une brebis perdue, une brebis abattue, on peut dire. Nous nous trouvons coincés dans une situation où nous n'arrivons pas à nous en sortir. Et nous devons demander à Dieu, viens me chercher, cherche ton serviteur. J'ai besoin de ton aide, je suis sans force, je n'arrive pas à me débattre dans cette situation, j'ai besoin de toi. C'est naturel à l'être humain de vouloir se débattre tout seul, de s'en sortir comme un grand, n'est-ce pas? Mais nous devons savoir qu'il y a des situations où il nous faut absolument avoir l'aide de Dieu, sans résultat valable. Nous ne pouvons pas le faire. Je me souviens quand nos filles étaient plus petites, elles arrivaient dans des situations où elles avaient besoin d'aide. Je me souviens de Fiona en particulier, qui au début, elle venait vers sa maman dire « Maman, t'aide, t'aide !» Parce que ma femme demandait « Est-ce que tu veux que je t'aide ?» Alors « Maman, t'aide, t'aide !» Elle avait besoin d'aide. Et nous aussi, parfois, nous avons besoin d'aller à Dieu et dire « Aide-moi, sors-moi de là, je n'arrive pas. » Matthieu 18, s'il vous plaît, verset 12. Matthieu 18, verset 12. Que vous en semble? Si un homme a 100 brebis et que l'une d'elles s'égare, ne laisse-t-il pas les 99 autres sur la montagne pour aller chercher celle qui s'est égarée? Et s'il la trouve, je vous le dis en vérité, elle lui cause plus de joie que les 99 qui ne se sont pas égarés. De même, ce n'est pas la volonté de votre Père qui est dans les cieux qu'il se perde un seul de ses petits. Si nous sommes dans la détresse, si nous sommes dans le danger, dans un danger, Dieu viendra nous chercher. Mais parfois, il attend à ce que nous lui demandions, pour que nous apprenions, pour que la leçon se grave dans notre esprit. J'ai besoin de Dieu. Je ne suis pas capable de me débattre tout seul. J'ai besoin de l'aide de Dieu. Et quand nous faisons appel à lui, il viendra en courant, pour ainsi dire. Jean chapitre 10. Jean, chapitre 10, verset 27. Jean, chapitre 10, verset 27. Il dit, « Mes brebis entendent ma voix, je les connais et elles me suivent. Je leur donne la vie éternelle et elles ne périront jamais et personne ne les ravira de mes mains. Personne ne les ravira de mes mains. Mon Père qui me les a donnés est plus grand que tous, et personne ne peut les ravir de la main de mon Père. Moi et le Père, nous sommes un. » Ça, c'est une promesse merveilleuse. Personne ne peut nous ravir de la main de Dieu le Père et de Jésus-Christ. C'est très réconfortant. Et nous devons réfléchir là-dessus souvent. Nous devons réfléchir, méditer le fait que nous sommes absolument en sécurité, pourvu que nous nous laissions soigner, que nous coopérons avec le grand berger. Psaume 79, Psaume 79, verset 13. Psaume 79, verset 13. « Et nous, ton peuple, le troupeau de ton pâturage, nous te célébrerons éternellement, de génération en génération, nous publierons tes louanges. » Nous sommes le peuple de Dieu. Nous sommes le troupeau de Dieu, le troupeau de son pâturage. Il s'occupe de nous, il prend soin de nous, et nous pourrons le célébrer éternellement. Ça, c'est son plan pour nous. Que nous puissions être avec lui et célébrer tout ce qu'il a fait dans nos vies éternellement. Alors, voici les quatre chapitres dans ce guide de survie pour des brebis. Chapitre 1, nous devons rester tout près du berger. Nous faisons cela par la prière, l'étude de la Bible, la méditation et la fraternisation avec son peuple, son troupeau. Chapitre 2, nous devons permettre au berger de nous soigner et ne pas résister à ses soins. Troisième chapitre, nous devons faire très attention aux prédateurs et aux parasites. Nous devons faire très attention à cela, reconnaître le danger que cela représente pour nous. Et quatrièmement, quand nous ressentons un danger, nous devons appeler vite au secours, appeler au grand berger pour qu'il vienne nous soigner, qu'il vienne prendre soin de nous. Psaume 23, Psaume 23, verset 6. Psaume 23, verset 6. « Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie, et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. » Soyons très reconnaissants, frères et sœurs, d'avoir un tel berger. Profitons-en, et nous serons des brebis contentes, heureuse, en bonne santé, réussie dans le troupeau de Dieu pour toujours.